On va recevoir maintenant Anne de Peynlot, de la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour venir nous faire un petit exposé sur les objectifs et démarches de la HAS en psychiatrie. Et ce sera la dernière intervention avant les présidents.
Je vais essayer d'être, d'avoir pitié des braves qui sont restés et d'être le plus rapide possible. Pour vous présenter justement un travail de la Haute Autorité de Santé qui, on l'espère, répond au moins en partie ou commence à répondre aux préoccupations qui ont été évoquées ici, notamment autour de la question des repères pour les pratiques professionnelles. On a bien compris effectivement qu'il y avait une hétérogénéité des pratiques. Un souci aussi au niveau de la mise à jour simplement des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. On espère effectivement que ça va répondre en partie à cette préoccupation, sachant qu'on se situe très très en amont des incidents qu'on a évoqués, de la mise en contention, en isolement, et on se situe dans une approche préventive très en amont. Y compris du moment de violence qui peut s'exprimer chez un patient hospitalisé. Donc, le cadre général, c'est celui d'un programme psychiatrie et santé mentale de la Haute Autorité de Santé qui a été mis en place en 2013. Il y a un comité de suivi qui représente ce qu'on appelle les parties prenantes du champ de la psychiatrie et de la santé mentale. L'ADESM en fait partie. Et on a mis en place un certain nombre de travaux, notamment sur un axe droit et sécurité en psychiatrie, avec ce travail sur la prévention des épisodes de violence en hospitalisation psychiatrique, mais aussi en complément des recommandations de bonnes pratiques qui sont en cours d'élaboration sur la contention et l'isolement, dans une perspective évidemment de limitation de ces mesures. On a travaillé très longtemps et en profondeur avec un groupe de travail représentatif mis en place en 2014 avec des représentants d'usagers, patients et familles, mais aussi les représentants des professionnels concernés. Les directeurs étaient représentés. On a mis un S parce qu'ils étaient deux sur un groupe de 34, donc ils étaient aussi très, très courageux. Un directeur du privé, un directeur du public. On avait beaucoup insisté sur la présence des cliniciens, médecins et infirmiers, mais on a voulu aussi une représentation des directeurs. Les directeurs du public ont été représentés par Guillaume Fagnou, qui est ici, que je remercie. Il y avait aussi Corinne Launay qui était présente dans la salle, le docteur Corinne Launay de Sainte-Anne, qui faisait partie de ce groupe de travail, qui a été présidé par le professeur Jean-Louis Senon, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Le périmètre, enfin la question qui était posée à la HAS était vraiment très précise, et on ne travaille que sur des questions très précises, et comme vous le verrez, de toute façon, ça génère toujours, et comme on fait le tour des données scientifiques, on est obligé d'avoir un périmètre restreint. Il s'agissait de répondre à la question de la prévention et de la prise en charge des actes hétéro-agressifs des patients adultes hospitalisés en psychiatrie. Donc vous voyez, c'était très... le périmètre était extrêmement précisément défini. Notre point de départ, ça a été l'audition publique de 2011, que vous connaissez peut-être, sur la dangerosité psychiatrique. Qui a dit un certain nombre de choses importantes. Qui a posé des choses. D'abord, il n'y a pas de lien systématique entre violence et troubles mentaux. Il y a très peu d'actes de violence qui sont liés, enfin, qui sont le fait de personnes atteintes de troubles mentaux. Par ailleurs, les personnes atteintes de troubles mentaux sont beaucoup plus souvent victimes qu'auteurs de violences. Donc ça, il fallait le rappeler, ça, on est dans le monde social, c'est quelque chose d'important. Il y a cependant, les études montrent une élévation du risque de violence dans certains troubles mentaux graves. Donc il faut le prendre en compte. C'est une question de la clinique psychiatrique, la violence. Et c'est ce qu'a fait, c'est ce qui a été fait dans le cadre de cette audition publique qui est disponible, bien sûr. Il y a un thème qui a été esquissé en 2011 et qu'en fait on a creusé. On n'a fait que creuser des choses qui étaient déjà dites, même si ce n'était pas central dans l'audition publique de 2011. C'est la question de la violence en institution et des actes de violence en institution. Ce qui avait été dit lors de l'audition publique, c'est qu'il y avait une prévention possible au sein de l'institution, qu'il y avait des choses à mettre en place, qu'il y avait des stratégies possibles de prévention bien avant que les incidents se déclarent, et qu'il y avait certains éléments dans la façon d'accueillir les patients, d'organiser le service, d'organiser l'établissement, qui pouvaient jouer dans le sens de la prévention. Alors, prévention des incidents violents, mais bien évidemment, prévention aussi des réponses en termes de contention et d'isolement. Ça a été très présent dans nos esprits tout au long du travail. Et il faut savoir que les choses vont de pair. C'est-à-dire que là, je pense que je commence à bien connaître la littérature sur le sujet, en tout cas sur prévention et gestion de la violence en psychiatrie. Peut-être le champ de la revue de littérature, ça n'était pas la limitation de la contention et de l'isolement, mais malgré tout, très souvent, ça l'embarquait. Et donc, on voit, toutes les études montrent, les deux indicateurs baissent en même temps. La prévention de la violence, c'est aussi la prévention de la contention et de l'isolement. On a, c'est de manière systématique, et en tout cas jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré une seule étude où les deux indicateurs n'aillent pas dans le même sens. Bon, pour vous donner quand même quelques idées, on a très très peu de chiffres français au niveau national. Effectivement, il y a vraiment un déficit de mesures dans tous ces domaines en France. On a été obligé de s'appuyer sur des chiffres internationaux. Il existe des grilles standardisées de recueil des incidents violents à l'étranger qui sont utilisées dans le cadre de recherches assez systématiques, notamment de recherches en soins infirmiers qui nous ont beaucoup aidés. Donc on est obligé d'être sur des chiffres, mais on sait que les incidents violents en psychiatrie, c'est fréquent. Voilà. En gros, c'est tout ce qu'on peut dire, mais malgré tout, c'est établi. Il y a une revue de littérature extrêmement exhaustive qui a été réalisée en 2011 par le professeur Leonard Bowers, qui est un professeur en santé mentale du King's College, en soins infirmiers. Et qui a fait le tour des publications, 424 publications analysées sur le phénomène de violence en hospitalisation psychiatrique, 122 publications sur la prévalence et l'incidence, et on arrive à quelque chose comme dans une unité d'une quinzaine de lits, il y a à peu près 3 incidents violents par semaine. C'est-à-dire, alors, incidents violents, violence verbale, violence physique, violence contre les objets, je dirais suffisamment grave pour faire l'objet d'une déclaration et d'une documentation dans le service grâce à ces grilles. Bon, ça, c'est les victimes. Les victimes, c'est tout autant les patients que les professionnels. Ça, il faut le savoir. On a longtemps minimisé le phénomène de victimation des patients, et donc il faut le prendre en compte. Peu de patients sont concernés. En tout cas, sur les moments de violence répétés, c'est vraiment une minorité, il faut le savoir. Peu rares incidents vraiment graves demandant une intervention et une prise en charge somatique, mais beaucoup d'impacts psychologiques extrêmement, extrêmement importants sur les patients, les professionnels et les équipes. Le constat qui est fait, c'est qu'il y a vraiment des cycles de violence qui se mettent en place dans les services avec une violence institutionnelle qui répond à la violence des patients et des formes effectivement de crispation de chacun et au sein des services avec des conséquences très délétères. Une fréquence effectivement au moment de l'admission, mais aussi une fréquence de ces incidents dans les services d'hospitalisation de longue durée, services extrêmement difficiles comme je pense que vous le savez. les facteurs très complexes. On est face à des situations extrêmement où il est très difficile de débrouiller les causes. Il y a bien sûr la clinique, ça c'est sûr, l'état de santé du patient. Je ne détaille pas, il y a beaucoup de choses justement dans l'audition publique de 2011 là-dessus. Mais il y a aussi le contexte. On voit bien d'ailleurs qu'il y a des services où il y a plus d'incidents que d'autres avec des patients qui ont les mêmes pathologies. On a aussi travaillé sur cette question, je dirais, des pathologies organisationnelles qui répondent aux pathologies des patients. Il faut, on a passé très longtemps à analyser la question des facteurs contextuels, notamment avec un médecin du travail qui s'appelle le docteur Estrine Béard, qui est aussi ergonome et qui nous a éclairé sur la question. Donc, il existe des stratégies de prévention, il existe des stratégies de gestion de la violence et qui permettent une réduction de la contention et de l'isolement. Donc, l'idée des outils, je ne les détaillerai pas, mais on propose justement ce que vous disiez, monsieur, une boîte à outils, des éléments. On a séparé en plusieurs modules pour que les équipes puissent s'emparer chacune à leur façon. Des repères qu'on propose et qui puissent mettre en place une démarche d'amélioration, une démarche de développement des compétences adaptée à chaque équipe, à chaque établissement pour justement aller dans le sens d'une meilleure prise en charge des épisodes de violence en hospitalisation. Donc on propose un guide général qui pose un peu les principes de la démarche. 15, ce qu'on appelait programme d'amélioration des pratiques, c'est globalement des objectifs d'amélioration qu'on peut se donner dans ce domaine. Vous les verrez, hein, je vais vous les présenter, mais pas en détail. Pour les accompagner, 14 outils d'amélioration des pratiques qui creusent certains sujets. Je vais vous donner des exemples. Ça a été évoqué pendant la journée. Je pense que ça peut être intéressant. Évidemment, un rapport bibliographique, ça a été publié il y a quelques jours. Le 22 novembre.
Est-ce que vous pensez qu'en 5 minutes, vous pouvez faire la fin ?
Voilà, donc je vais vous présenter. Alors, voici les programmes d'amélioration. On travaille les trois moments de la prévention. La prévention initiale, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. La prévention initiale, je pense que les éléments qui vous ont été présentés ce matin sur l'accueil du patient, par exemple, dans un centre de crise, c'est exactement ce qu'on a voulu souligner. C'est pas des choses toujours très novatrices, c'est souvent des fondamentaux qui sont rappelés sur le soin, sur le travail d'équipe, mais aussi des choses peut-être moins familières sur ce que peut dire le patient sur sa propre violence, la manière dont il peut aider l'équipe à gérer sa propre violence, on l'a intégré. La prévention secondaire, vous avez entendu parler de techniques de désescalade. C'est des choses qui sont très connues, notamment en particulier des infirmiers psychiatriques français. Mais c'est souvent des savoir-faire informels. Et l'avantage des anglo-saxons, c'est qu'ils ont formalisé ces techniques. Et donc on s'est inspiré à la fois, je dirais, du savoir-faire informel infirmier français et de la capacité de formalisation des anglo-saxons pour essayer de proposer justement des outils. Voici les 14 outils. Donc vous voyez par exemple stratégie de désamorçage de situation à risque de violence, c'est ça les techniques de désamorçage. Plan de prévention partagé, c'est partagé avec le patient pour essayer de comprendre avec lui ce phénomène de violence. Il y a aussi toute la question de la prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après un incident au niveau de l'institution, au niveau de l'équipe avec le patient. Il y a certains enjeux transversaux qu'on a identifiés. L'un des points clés, c'est évidemment l'analyse collective qui peut être faite des incidents. C'est essentiel, justement, pour rentrer dans une démarche d'amélioration. Merci.